Dans nos communautés, une émission de Christiane Hervault sur Radio Alliance Plus.
Bonjour chers auditeurs, chères auditrices de Radio Alliance Plus, bienvenue pour notre émission. Aujourd'hui, nous allons parler du pasteur Daniel Bourguet. Et oui, Daniel Bourguet est décédé lundi 6 avril dernier à Nîmes, à l'âge de 79, il allait sur ses 80 ans. Il a été notamment professeur, prieur de la Fraternité spirituelle des Veilleurs. Il a vécu aux Abeillères avec les Sœurs de Pomerol. Et puis, il a vécu une vie de solitude, de silence et d'écriture et de relations beaucoup avec d'autres pour parler avec eux et enseigner. Voilà, très très brièvement, parce que nous allons parler de lui beaucoup plus largement, avec Hélène et Christian Garel qui sont venus nous rejoindre. Bonjour.
Bonjour oui. Christiane.
Bonjour, je suis ravie que vous soyez là, parce que je sais à quel point Daniel Bourguet a compté pour vous.
Oui.
Et donc, c'est une très bonne chose que vous puissiez être avec nous et nous partager un peu de sa vie, nous dire peut-être en premier lieu comment vous l'avez rencontré.
À l'époque où nous avons rencontré Daniel, nous habitions les Cévennes, au-dessus du Vigan, et il se trouve que Daniel est originaire de cet endroit et qu'il avait sa grand-mère qui habitait la vallée voisine. Et à ce moment-là, nous traversions un moment, on pourrait dire, pas forcément de désert spirituel, le mot peut être un peu fort, parce que nous avions des groupes de prières à la maison, mais nous n'étions pas vraiment pleinement intégrés dans l'église locale, et c'était un petit peu en questionnement, un petit peu difficile quand même pour nous, par rapport à l'église. Et notre fille avait demandé le baptême, notre fille aînée, et nous avions donc rencontré un pasteur qui était stagiaire au village voisin, à Aulas. Ce pasteur, c'était Yvon Thomas, et Yvon était en même temps donc étudiant en tant que stagiaire, étudiant en alternance à l'IPT et puis en paroisse. Et c'est lui qui nous a dit qu'à l'IPT, il avait donc l'Institut protestant de théologie, il avait comme professeur d'Ancien Testament le professeur Daniel Bourguet, qui était donc prieur de la Fraternité spirituelle des Veilleurs. Et Yvon nous a dit, mais ça, je vous vois très bien devenir veilleur, c'est quelque chose qui pourrait vraiment vous correspondre, je vous invite à rencontrer le prieur. Alors nous avons dit, mais avec grand plaisir, une prochaine fois qu'il viendra en Cévennes, qui s'arrête chez nous. Et donc, je ne sais plus si Daniel avait à ce moment-là une 4L ou une 2 chevaux.
Il avait une 2 chevaux beige.
D'accord. Et je revois encore Daniel, voilà, s'arrêtant et rentrant dans notre petite maison des Cévennes, ouais. Alors qu'il montait le col pour aller voir sa grand-mère. Et donc ça, c'était il y a plus de 35 ans à peu près, il y a à peu près 35 ans de ça. Et il nous a donc parlé de ce qu'était la Fraternité spirituelle des Veilleurs. Et nous avons été très touchés parce que vraiment, ça correspondait pour nous non seulement à une confession de foi qu'on trouve dans l'Église, mais surtout à une pratique de foi dans le quotidien. Et c'était ça qui nous a interpellés. Et à partir de là, nous avons donc cheminé avec les Veilleurs. Et dans ce cadre-là, nous avons rencontré Daniel à chaque rencontre régionale et pendant donc toutes ces années, en l'approfondissant après par la suite, puisque quand nous sommes venus à Nîmes, notre groupe de prière des membres du groupe nous ont dit, mais pourquoi, alors que vous connaissez Daniel, pourquoi ne pas prolonger par des journées de retraite auprès de lui, puisqu'il venait à ce moment-là d'ouvrir le lieu des Abeillères comme lieu d'accueil, avec des Martes qui s'occupaient de l'accueil. Et donc, pendant des années, je n'ai pas compté, environ, on va dire, une vingtaine d'années, nous avons, 3 fois par an, passé une journée auprès de lui, où il nous transmettait, on va dire, son enseignement, duquel après il tirait ses livres, en fait, de sa méditation personnelle. D'abord, il y avait une transmission orale, et puis après, une mise à l'écrit. Donc voilà comment nous avons cheminé avec Daniel.
Et alors, avant qu'il soit prieur de la communauté spirituelle des veilleurs, Daniel, il a donc, comme vous l'avez évoqué, Hélène, il a été aussi enseignant, mais il a fait aussi beaucoup d'autres choses. Mmh. Vous pouvez nous en dire plus un peu sur l'avant, quelques mots avant sur ça.
Alors, ce que nous en connaissons, ce que j'en connais en tout cas, parce que nous l'avons vraiment connu en 1992, Daniel. Hein. Ouais. Nous avons vraiment commencé à nous attacher et à sa proposition de pratique. Donc, j'en reparlerai peut-être un petit peu plus tard là, du monachisme intérieur et de sa pratique, sa proposition de pratique et d'éveilleurs, etc., etc. Et donc, avant de le rencontrer, donc, quand nous l'avons rencontré, on va partir peut-être de là, quand nous l'avons rencontré, il était encore donc, professeur d'Ancien Testament à la faculté de Montpellier, d'où sa rencontre avec Yvon Thomas, qui était son élève, etc., etc. Avant ça, il avait déjà pas mal cheminé dans cette idée du monachisme intérieur, c'est-à-dire que donc il a fait ses études à la faculté à l'IPT de Montpellier, enfin à l'époque ça s'appelait, je crois, la faculté de théologie de Montpellier, tout simplement, et déjà à l'issue de ses études en théologie, déjà il a prolongé ses années de formation, il les avait prolongées en allant étudier à l'école biblique de Jérusalem. Il était allé là-bas un an durant, donc en Israël, donc, un jour comme ça, et enfin, il le raconte à une amie qui a écrit un petit article là-dessus. Un jour, il se décide un petit peu inspiré par l'histoire, le récit du bon samaritain. Il se décide à faire le chemin entre Jérusalem et Jéricho. Et entre Jérusalem et Jéricho, il y a un monastère orthodoxe qui s'appelle le monastère Saint-Georges de Cosiba. Et là, il s'arrête, il entre dans le monastère et il rencontre le père abbé et il commence à lui poser des questions. Mais qu'est-ce que c'est la vie de moine et comment ça se passe? Dites-moi un peu plus, etc. Et le voilà sorti du monastère en se disant « c'est cette vie-là qui me plaît ». Et depuis ce moment-là, il explique très bien ce petit article-là, et depuis ce moment-là, ça ne l'a jamais lâché. Il a cherché à développer à la fois cette intuition et cet appel à la vie monachique. Et donc, voilà, il finalise ses études, il est nommé pasteur en Haute-Loire. En Haute-Loire, Comme fait exprès, il se rapproche d'un lieu investi par les diaconesses de Reuilly, donc le Mazé Saint-Voix. Au Mazé Saint-Voix, évidemment, parce qu'il cherche un lieu priant, un lieu d'une un petit peu plus une expression de foi un peu plus contemplative, etc., etc., à la manière de son appel pour le monachisme. Et il y rencontre bien évidemment des diaconesses, et il y rencontre aussi des frères de Ruy, donc des hommes qui cherchaient un petit peu la même chose que lui. Et donc, tout en étant pasteur à Tence, exactement, Haute-Loire, tout en étant sur son ministère de pasteur, il va se concrétiser un projet un petit peu inattendu, c'est-à-dire qu'il y a Sœur Myriam, des diaconesses de Reuilly, qui propose de mettre à disposition de ces frères-là, enfin, lui, il n'était pas frère de Reuilly, mais enfin, il était un petit peu dans la même quête, de mettre à disposition de ces hommes, on va dire, eh bien, la possibilité d'avoir une vie communautaire, de démarrer une vie communautaire. Et là, il a commencé, donc, pendant 4 ans, je n'ai plus les dates en tête, mais en fait, pendant 4 ans, il va vivre déjà une expérience de vie communautaire. Mais il va ressortir assez rapidement en se disant, non, ce n'est pas vraiment comme ça que j'aimerais mener mon projet. Donc, c'est un petit peu, ce sont les prémices un petit peu de ce qui va se passer plus tard, parce que bon, il sort de cette expérience et de l'expérience de la paroisse en Haute-Loire, en se disant non, si j'ai cette expérience communautaire, ça ne me va pas. Je vais changer un petit peu de logiciel. Et le voilà parti pour des études de doctorat. Et il fait un doctorat sur l'Ancien Testament, sur le prophète Jérémie, etc., etc. Et de fil en aiguille, devient prof de théo à la fac de Montpellier.
D'accord, très bien. Merci Christian pour ce cheminement intérieur qui a dû être assez compliqué à un moment donné pour Daniel Bourguet, pour ce sentiment de la vie monastique, de cet appel qu'il avait. Comment le mettre en place, comment le vivre, et puis pas forcément tout seul, justement. Voilà, donc ça c'est important de voir comment les personnes évoluent et comment Dieu nous appelle à quelque chose de particulier qui ne se faisait pas tant que ça à cette époque.
Surtout au sein de l'Église protestante.
Voilà.
Enfin, à l'époque, c'était l'Église réformée. C'était pas encore le PU, c'était pas encore l'Église protestante unie de France, c'était l'ERF à cette époque-là. Mais ce courant-là existait dans le catholicisme, existait dans le monde orthodoxe, mais dans le monde protestant, il n'y avait pas de place pour ça.
Pour faire une petite pause, peut-être, de musique, vous avez choisi quoi ?
Alors, Daniel a commis un magnifique CD. Donc, il était, bon, on va dire le cœur de la pratique pour Daniel, comme pour de nombreux moines, hein, ce sont les psaumes. Et il a commis un CD qui s'appelle « Au cœur des psaumes », donc des textes qu'il a écrits. Ce sont des textes un peu priants, c'est un petit peu les documents que je proposerai aux auditeurs, un petit peu avec Hélène, on s'est mis d'accord là-dessus aujourd'hui tout au moins, des petits textes priants comme ça de Daniel. Et ces textes priants-là, il les a fait lire, donc une interprétation par un comédien professionnel qui s'appelle Michael Lonstal, et il a fait des intermèdes musicaux, voix, a cappella, avec l'ensemble vocal mélange. Donc je vais vous proposer, dans ce CD-là, je vous propose un extrait que Daniel a choisi. Alors, qui s'appelle, si je ne me trompe pas, c'est un hymne arménien à la résurrection. Et vous verrez, c'est une monodie particulièrement appréciée de Daniel.
Très bien. Eh bien, nous allons l'écouter et puis nous reviendrons juste après ensemble pour continuer notre conversation autour de Daniel Bourguet. Je suis donc avec Hélène et Christian Garel. Thank you. Vous êtes bien sur Radio Alliance Plus, vous écoutez le 103.2 et puis vous pouvez nous écouter en podcast sur radioallianceplus.fr, bien sûr. Nous sommes toujours ensemble avec Hélène et Christian Garel pour parler de Daniel Bourguet. Et ce qui nous intéresse en particulier, là, maintenant, c'est bien, qui était-il pour vous, cet homme? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce que vous retenez de lui, de ce qu'il vous a donné, ce que vous avez reçu? Là, vous allez nous répondre en duo, Hélène et Christian. On commence par Hélène?
Oui. Entendu.
Allez.
Si on se dit que la règle des veilleurs se concentre autour de trois mots, joie, simplicité et miséricorde, ça c'est pour les veilleurs. Peut-être que si pour moi je devais résumer en trois mots ce que j'ai retenu de Daniel, il y aurait silence, humilité et trinité. Silence parce que c'est auprès de Daniel que j'ai creusé et développé et senti l'importance du silence dans la pratique de foi. Humilité parce que c'était vraiment quelque chose qui imprégnait sa pratique, qui, sa personne en fait, toute sa démarche. Et puis trinité parce que tout en lui, tout dans sa théologie renvoyait à cette aspiration unitaire vers la Trinité, et c'était vraiment ce qu'il nous montrait sans arrêt. Mais ça, c'est, on va dire, pour résumer le cœur de ce que j'ai reçu, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que pour moi, c'était une théologie incarnée. C'était un homme qui vivait ce qu'il croyait et qui en était tout imprégné. C'était pas juste dans la tête, quelque chose qu'il pensait avec son mental, il en était tout imprégné, et ça le façonnait complètement. Je te laisse, Christian.
Christian, pour il a peut-être aussi beaucoup de choses à dire.
Oui,
Oui.
Mais tout à l'heure, je présentais un petit peu quelques éléments de la biographie de Daniel. Il y a vraiment une pièce maîtresse. La pièce maîtresse, elle arrive justement au moment où nous rencontrons Daniel, en 1992. Là, il y avait un petit peu de l'eau dans le gaz à la fac de théologie. Nous, on ne comprenait pas trop pourquoi. Parce qu'il y avait des bruits qui couraient. Daniel va partir de la fac de théologie. Lui, le doyen de la fac de théologie. Mais vous pensez, et il partirait, imaginez-vous, peut-être pour devenir ermite. Quelle folie. Alors, évidemment, les bruits ont couru. Et puis Daniel, très tranquillement, a dit, écoutez, je suis peut-être quelqu'un d'éternellement insatisfait. Mais ce n'est pas grave. Il a fait 6 ans à peu près prof à la fac de Théo. Il se dit, mais maintenant, je rendrai le service ailleurs. Je vais retourner en paroisse pour retourner un petit peu les mains dans le cambouis, si on peut dire. Et le voilà, donc il laisse la fac de Théo dans un premier temps. Et retourne dans une paroisse, il retourne une paroisse dans les Landes, et là, il fait le point. Et il fait le point dans les Landes et il se dit, est-ce que je continue comme ça? Est-ce que je continue avec une paroisse normale ou est-ce que je continue plutôt à creuser mes aspirations à la vie monachique? Et là, il ne reste pas très très longtemps, je l'ai noté quelque part, je crois qu'il reste un an en fait, à Mont-de-Marsan, il doit y rester de 94 à 95, quelque chose comme ça. Très rapidement, chasser le naturel, il revient au galop chez Daniel, il se rapproche donc de Notre-Dame des Dombes dans l'Ain, il se rapproche pour essayer de faire une réelle expérience en immersion, une expérience de moine. Donc il est accepté, ainsi que plusieurs autres collègues qui demandaient un petit peu la même chose. Je crois que, de mémoire comme ça, c'est celui parmi les trois personnes qui est resté le plus longtemps. L'une est restée quelque chose comme quelques semaines, l'autre 3 mois et lui, ou 5 mois, et lui 9 mois. Et donc, on va dire que cette année 94-95 a été vraiment le socle, on va dire, de tout ce qu'il va bâtir après, qui va lui permettre de nous témoigner tout ce dont Hélène nous a parlé. Donc à 95, donc il passe une année comme ça, pratiquement, enfin 9 mois, on va dire, avec les moines. Et là, il a un témoignage, et c'est vraiment une chose très, très importante pour moi, qu'il m'a dite. Il m'a dit, tu sais, la première chose, quand on veut être moine, la première chose, tu sais ce que c'est, Christian ? Eh bien, je vais te le dire, c'est de prendre les psaumes du numéro 1 au numéro 150 et de les apprendre par cœur. Et quand tu apprends le 1, c'est bien. Tu apprends le 1 et le 2. Tu connais le 1 et le 2, tu apprends le 3. Tu connais le 1 et le 2 et le 3, tu apprends le 4. Ah, tu t'es trompé au 4, tu reviens au 3, etc. etc. Et c'est pour dire à quel point les psaumes étaient au cœur de sa pratique priante et de son expression de foi. Et il y a une chose très particulière que j'ai retenue de ce qu'il m'a apporté alors aux abbayères, donc, puisqu'il a mis en pratique aux abbayères l'ayant vécu au Dombes, c'était les psaumes chantés. On a l'habitude de les psaumes, de faire la lecture des psaumes. Eh bien, lui, il nous a dit, écoutez, à l'origine, les psaumes étaient toujours chantés, par un chantre ou par une assemblée, mais ils étaient toujours chantés. Et donc, il a instillé comme ça une petite pratique pour qui voulait, aux abbayères, des psaumes chantés. C'est-à-dire qu'on avait les psautiers habituels, comme on les retrouve dans d'autres communautés protestantes. Et il nous proposait donc une petite mélodie en 4 vers. Cette mélodie, elle se calquait sur chaque fois 4 vers, les petits groupements de 4 vers du psaume. Allez, je vous donne un exemple. Il y a une petite mélodie qu'on chante souvent à Pomerol, qui fait « Rendons grâce au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ, le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. » Et voyez, si je prends par exemple un psaume très connu, le psaume 23, ça nous donne quelque chose comme ça. « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans les champs d'herbes vertes. Il me conduit au calme près de l'eau. » Vous voyez, des choses comme ça. Et voilà, tous les psaumes
étaient
chantés.
Oui, ça donne un autre ton au psaume.
Avec une accentuation marquée sur le texte, comme on a dans les psautiers de Pomerol ou autre. Alors évidemment, donc j'ai parlé de cet aspect un peu singulier qui m'a personnellement touché, de Daniel, chanter les psaumes. Donc les psaumes, et en plus chanter les psaumes, les prier. Mais il y a tellement, tellement de choses qui m'ont touché. Et j'en veux pour preuve les titres emblématiques de sa spiritualité. Je cite par exemple...
Quand vous dites les titres, ça veut dire qu'il écrivait. C'est Hélène qui en a parlé très, très rapidement tout à l'heure. Mais ça faisait partie de son travail aussi. Quand il était seul, notamment, le moine, mais aussi avant, quand vous l'avez rencontré.
Tout à fait.
Et donc, en même temps qu'il enseignait oralement, il écrivait. Vous pouvez nous donner donc quelques titres, parce que je crois que c'est emblématique de ce qu'il était aussi.
Tout à fait,
voilà.
Tout à fait. Donc,
on va les écouter.
Il y a une trentaine de livres que personnellement j'ai parcourus. Le premier qu'il a écrit, c'était intitulé « Prions les psaumes ». Donc, vous voyez les psaumes, l'importance. Le troisième, sur un chemin de spiritualité, la question du monachisme intérieur, du moine intérieur que chacun a en lui ou en elle.
Il y a celui sur les béatitudes qui est central chez les veilleurs, qui a été tellement important. La pudeur de Dieu aussi.
La tendresse de Dieu. Vous voyez, c'est des concepts qui mettent Dieu dans une situation beaucoup plus maternelle que paternelle.
Le silence de Dieu durant la passion. L'humble divinité de Jésus.
L'humilité. Il y a deux tomes, le 27e et 28e ouvrage là, que j'ai lu sur l'humilité de Dieu. Et tant de choses comme ça.
Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'en plus de ce travail d'écriture et de prière, il y avait aussi tout un temps que Daniel consacrait à accueillir les autres. Ceux qui étaient en recherche, en question, en souffrance, qu'il accueillait aux abbayères et qu'il accompagnait spirituellement. En cela, il a été pour beaucoup un vrai père spirituel, dans l'accompagnement et l'écoute et la prière individuelle.
Et lorsqu'ils n'avaient pas le temps, comme avec moi en particulier, je l'ai très peu rencontré de façon en vis-à-vis, eh bien, il écrivait. Il a écrit, il a recueilli dans un livre entier qui s'appelle Dieu au cœur de nos vies, Lettres aux veilleurs. Il écrivait régulièrement aux veilleurs. Et donc, des lettres sont consignées dans ce livre, Dieu au cœur de nos vies.
Merci Hélène et Christian. Il y aura encore tellement de choses à dire. Nous sommes un peu presque sur notre fin, mais enfin, nous avons profité au maximum de tout ce que vous nous avez dit et qui nous réjouit et qui nous remplit aussi cette personne assez hors du commun, il faut le dire.
Ça a été une grâce Daniel de rencontrer Bourguet. Daniel Bourguet, oui, ouais. Une vraie grâce.
Merci bien.
Merci Christiane.
Peut-être à une autre fois, pour d'autres émissions.
Probablement.
Sans doute. Au revoir.
Au revoir.